Donc, nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 31. De nouveau, pour expliquer la cinquième parabole, Matthieu 13, verset 44. Donc, nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 31. Et vous allez voir, je fais des raccords, évidemment. Je fais des rapprochements. On ne peut pas dire que je suis pas peut-être pour un exégète de métier, le bon exégète, hein. C'est peut-être pas le super intellectuel. J'aime la parole de Dieu et je vais vous dire, je trouve énormément d'éléments qui se tiennent ensemble. Et je vous invite à faire de mieux que vous pouvez, vous-même dans la parole, cherchez et vous trouverez toujours le trésor caché. C'est ça qui compte. L'essentiel, c'est de ne pas se faire une grosse tête d'intellectuel, même s'il en faut. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, bon, ceux qui sont séparés de Dieu. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'en ai enterré l'intelligence des intelligents. C'est les intelligents et les sages à leurs propres yeux. Les gens qui sont autosuffisants ne voient pas le trésor que Dieu a donné. Il l'est caché pour eux. L'existence continue, le champ est là. Ils continuent à être dans le champ, mais ils ne voient pas le trésor caché qui est là, à leur portée. Verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Donc l'intellectuel. Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, donc la parole de l'Évangile. Les Juifs demandent des miracles, c'est ce qui arrivait au temps de Jésus, et ça leur suffisait, mais ils voulaient pas, ils voyaient pas le Messie, ils voyaient pas en Jésus de Nazareth le Messie annoncé dans tous les prophètes. Les Juifs demandent les miracles, et les Grecs cherchent la sagesse, des raisonnements, comme nous en Europe. Nous prêchons Christ crucifié. Donc, mort sur la croix pour nos péchés. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. La folie de Dieu est plus sage que les hommes, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon l'humanité, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Dans l'église de Corinthe, il y avait énormément d'anciennes prostituées et des esclaves. C'était une très grosse ville où il y avait énormément de prostituées et d'esclaves. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair humaine ne se glorifie devant Dieu. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Est-ce que réellement la personne qui vend tout pour avoir le champ et qui a le trésor ne va pas être heureux, c'est se glorifier d'avoir trouvé le trésor? Oui, quelqu'un qui a trouvé le Christ dans sa vie sait très bien que tout le reste c'était que des broutilles, ça ne sert plus à rien, et que le Seigneur Jésus est son trésor. Et il s'en glorifie, il s'en réjouit, il en parle, il le fait savoir. Donc, tout ce qui était rejeté, qui est rejeté par la plupart des gens, est trouvé par certains. Par certains que Dieu appelle à chercher plus profondément, plus en profondeur, au-delà des apparences, qui est Jésus. Seriez-vous de ceux-là que Dieu appelle? Je le souhaite. Alors, Colossiens chapitre 3, verset 3. Colossiens chapitre 3, verset 3. Vous êtes mort, c'est-à-dire la vie ancienne est morte. La vie dans le péché, dans l'orgueil, dans l'autosuffisance, dans l'égarement, de toutes sortes de choses, hein, c'est ça qui est mort. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est en Christ, vous êtes avec Dieu, mais elle est cachée. C'est-à-dire que les autres ne comprennent pas, les autres n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous êtes en Christ. Pourquoi vous avez ce trésor en vous ? Ils n'arrivent pas à saisir pourquoi Christ est votre trésor caché et pourquoi vous-même, votre vie, quelque part, il y a quelque chose de caché. Ils voient bien que vous êtes différent, c'est un petit peu comme l'iceberg, on voit au-dessus de l'iceberg, c'est le dixième, et il y a 9/10 ou 10/11 de l'iceberg en dessous. Les gens non-croyants voient que les chrétiens sont différents, les vrais chrétiens, hein, nés de nouveau, qui sont dans le Saint-Esprit, qui aiment la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Mais le dessous, ils ne le voient pas. Pour qu'ils le voient, il faut qu'ils soient eux-mêmes de nouveau, nés de nouveau. Qu'ils aient accepté de chercher et de trouver le trésor caché. S'ils ont cet appel-là en eux, Dieu leur révélera. Ça, c'est clair. Donc, Colossiens, chapitre 3, vous êtes morts, donc la vie ancienne, et votre vie nouvelle, chrétienne, est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, il y a un jour où la gloire sera pour tous ceux qui ont accepté Jésus. Et pour les autres, c'est la déchéance. C'est évidemment les tribulations qui sont réservées dans le monde. Apocalypse, chapitre 6, à 18. Et cette tribulation, elle sera dure. Et puis après, pour ceux encore qui refusent d'accepter Jésus, le trésor caché, eh bien, il y a le jugement éternel, l'enfer. Chers amis, la joie du salut est la joie profonde, la plus grande qui existe au monde. Prenons Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Versets 20 à 24. Luc chapitre 10, versets 20 à 24. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits, donc les démons, vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. » On en revient à 1 Corinthiens, chapitre 1. « Que tu as caché cela aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux enfants. » Donc, à ceux qui ont un cœur qui a vraiment le désir d'aimer Jésus, de le connaître. « Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. » Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus peut nous révéler le vrai trésor. Lui-même, déjà, qui est l'image de Dieu, le représentant de Dieu venu sur terre. Et cette joie-là de recevoir Jésus dans notre vie, est une joie immense. Immense, les amis, qui ne peut pas nous laisser indifférents. Il y a tellement de tristesse sur cette terre, les amis, tellement de tristesse. Vous connaissez la parabole de la brebis perdue dans Luc 15, versets 5 à 7. Luc 15, versets 5 à 7. Jésus leur dit encore cette parabole, 15, verset 3, Verset 4, maintenant, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous. Les amis de Christ, c'est les anges, hein, c'est les saints, c'est les prophètes dans le ciel. C'est ça. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc, les amis de Dieu se réjouissent, les anges, etc., ils se réjouissent. Vous voyez bien, il y a de la joie dans le ciel, mais regardez bien, dans Luc 15, verset 10, il y a de la joie devant les anges de Dieu. Qui est devant les anges de Dieu? Dieu le Père et le Fils, le Saint-Esprit, les quatre grands archanges. Donc, Dieu est dans la joie quand un pécheur reconnaît Christ comme son trésor. Donc, nous comprenons mieux Matthieu, chapitre 13, verset 44. J'espère que j'ai donné une explication suffisamment éloquente d'un un ou deux versets qui peuvent passer en quatrième vitesse si on ne fait pas attention, et auxquels on peut accorder des sens très secondaires, très imagés et très édulcorés. Donc, dans Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ, c'est Christ. L'homme qui l'a trouvé le cache, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, il achète le champ. Alléluia. Puisse cela être votre cas. Et quelle joie au ciel, si c'est votre situation. La sixième parabole, c'était Matthieu 13, versets 45 à 46. Matthieu 13, versets 45 et 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Bon, j'ai déjà trouvé bien souvent que les marchands étaient déjà à l'époque de Jésus des personnes redoutables qui faussaient la situation à l'entour du temple. Ça travestissait tout l'esprit de piété, tout l'esprit de consécration et de repentance. On ne faisait plus que du business. Et les pauvres gens apportaient ce qu'ils avaient pour avoir un réconfort auprès de Dieu, pour avoir presque une absolution. Mais pensons au Moyen-Âge, toutes les cathédrales avec les reliques, pas les promenades, mais les pèlerinages. C'est une catastrophe historique, ce qui s'est passé là. C'est la même chose que pour le temple de Jérusalem. Ça s'est répété. Et ça se répète encore. Ça se répète encore. L'iniquité, l'apostasie, à la vie dure, elle est là. Alors, les marchands, dans la première Timothée, chapitre 6, verset 10 à 21, je vous ai dit que l'argent est la racine de tous les maux. C'est ça que Paul dit pour les chrétiens. La racine de tous les maux. Dans Zacharie 14, 21, je vous ai dit l'autre jour que à la fin des temps, quand Dieu sera là à Jérusalem, il n'y aura plus de marchands. Fini. Eh oui. Alors vous comprenez mieux pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 2, chasse les vendeurs du temple. Parce qu'ils ont fait une maison de trafic. Alors Jésus leur dit, ça sera une maison de prière pour toutes les nations. Ce n'est pas une maison de caverne, une caverne de brigands et de voleurs. Donc c'est Jean chapitre 2, versets 13 à 40. Évidemment, dans l'église, la première église, il y a des gens qui viennent avec cette mentalité-là. Et c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, le cas d'Ananias et Zéphira qui commencent à se glisser en se faisant paraître pour excellents en donnant beaucoup d'argent, mais qui en fin de compte ont des gros magots bien cachés. Pierre et Jean les prient de sortir de l'église. Ils n'ont pas de part au royaume des cieux et ils meurent sur place. Ce qui est l'image de la condamnation de tous ceux qui ont triché devant Dieu à travers tout le christianisme, la chrétienté, qui ont l'air d'être des gens pieux et débonnaires, qui aident l'œuvre de Christ et qui en fin de compte la sabotent parce qu'ils prennent une influence, une prédominance par leur argent, par leur influence sociale, financière sur les églises. Et nous allons, bien sûr, dans Luc chapitre 17, versets 26 à 33, où Jésus dit que quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, il en sera comme au temps de Noé. Les hommes bâtissaient, mangeaient, buvaient, plantaient des arbres, etc. Et dans, au temps de Lot, Sodome et Gomorre, ils se mariaient, ils bâtissaient, ils achetaient des terrains, etc. Et vous rappelez la parabole de tout à l'heure, je vous disais, quand ils sont invités, ils trouvent comme excuse qu'ils ont acheté des paires de bœufs ou un champ et tout. C'est donc la belle excuse que Dieu n'acceptera jamais. L'argent ne sera jamais. Et l'avarice et la préoccupation de l'argent ne seront jamais une excuse pour Dieu, pour avoir renversé les valeurs dans ce monde. Les vraies valeurs étant l'adoration de Dieu et de faire sa volonté. Nous savons très bien que si l'évangile était vécu par tout le monde de manière correcte, la parole de Dieu et la volonté de Dieu était accomplie, il n'y aurait pas de pauvres sur cette terre. Il n'y aurait pas de désert. Il n'y aurait pas de guerre. Nous savons très bien. Donc Dieu a décidé un jour de terminer cette histoire, le temps des nations. C'est cela qui se trouve dans l'Apocalypse. Le temps des nations sera terminé. Et évidemment, la parabole des marchands, c'est quand même, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 13, il y a quand même un marchand qui cherche autre chose que de belles perles. Il en a beaucoup, mais il trouve une perle de grand prix. Et voilà un marchand qui tout d'un coup renonce à toutes ses autres perles et qui, d'une manière tout à fait libre et responsable, liquide toutes les perles, tout ce qu'il a, pour avoir la grande perle. Et je me suis posé la question, mais cette perle de grand prix, où est-il ? Où est-elle ? Et j'ai trouvé assez étonnant que cette perle de grand prix, on la trouve dans Apocalypse. Chaque tribu d'Israël rentrera par une porte à Jérusalem. Pour la Jérusalem céleste. Le trône de Dieu est là, dans la Jérusalem céleste. Les cieux, la Jérusalem céleste est venue sur terre. Et chaque porte est une perle. Une seule perle. Et donc, il est clair pour moi qu'il y a une priorité que Jésus enseigne à travers cette parabole. C'est d'être au festin des noces, d'être avec Christ à Jérusalem, dans Jérusalem céleste, et d'abandonner tous ses biens, de suivre Jésus-Christ, et de renoncer à l'esprit de lucre, de convoitise, de domination, et d'aimer le royaume de Dieu plus que tout. Nous allons lire dans Apocalypse 17, versets 1 à 6. Apocalypse 17, 1 à 6. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. » Donc, Azelgia, c'est dérèglement, hein, total. Hein. Bah, le monde est déréglé, vous le voyez bien. Hein. C'est pas seulement le sexe, il est déréglé dans tous les sens. Alors, c'est ça l'impudicité, c'est du vin. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc ils ne se retiennent plus, ils ne se contrôlent plus. Ils sont partis dans ce dérèglement. Et il me transporta en esprit dans le désert, je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant cette tête et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des impudiques, des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc cette civilisation est complètement posée à l'évangile. Et à la fin des temps, dans la tribulation, dans la période de tribulation, elle exerce une persécution totale sur ceux qui ont la foi, totale, jusqu'au meurtre, à l'assassinat. Déjà maintenant, il y a 245 millions de chrétiens réellement persécutés sur la terre, réellement. C'est l'office européen du droit et de la justice qui leur... C'est pas des chrétiens qui donnent ces chiffres-là. Et ça commence en France, dans ce qu'ils ont relevé. Et donc, cette civilisation va s'écrouler et elle va être littéralement dégagée. Si vous lisez tout le chapitre 17 et 18, vous allez voir qu'en une seule heure, au verset 18, chapitre 18, verset 19, tout est fini. Tout est terminé. Vous pouvez lire les chapitres 17 et 18 d'Apocalypse, vous verrez que cette civilisation n'en vaut pas la peine. Celle qui est en train de monter en puissance, aux dépens de tous les pauvres du monde. Et en se foutant bien de Dieu, de tout ce qu'il a demandé, et de l'Évangile. Il n'y a pas pire blasphème aujourd'hui que cette civilisation de l'argent. Elle est vraiment impudique. Elle ose tout pour continuer. Elle ose tout. Et elle fait périr des gens, elle abîme la nature, elle détruit la nature. Elle est en train d'amener l'extinction de la race humaine. Heureusement que Dieu a promis de faire des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Heureusement que Dieu a promis la résurrection. Sinon, l'histoire humaine se termine en un drame inéluctable. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la foi et ils savent très bien, ils sont extrêmement pessimistes. Je ne suis pas pessimiste, j'ai une espérance folle dans les promesses de Dieu. Quoi que fasse l'homme, Dieu aura le dernier mot et réussira son œuvre, son chef-d'œuvre, une humanité réussie en Christ. Dommage pour ceux qui vont refuser. Et donc, cette Jérusalem céleste, qui est, bien sûr, le lieu où même Christ sera là, qui sera présent sur la terre, où il va régner, c'est clairement une Jérusalem glorieuse. Et vous avez cette description dans Apocalypse 21, et je vous recommande de lire à partir du verset 16, et vous verrez qu'au verset 21, les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte étant d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Donc, l'or pur, c'est l'adoration de Dieu, la consécration à Dieu. Et la perle, à chaque porte, la perle, c'est par là qu'il faut passer. C'est Christ. Chaque tribu d'Israël, suivie des nations, passera par une porte, passera par Christ. La perle précieuse, c'est Christ pour moi. Il n'y a pas moyen de rentrer dans Jérusalem céleste sans Christ. Derrière lui. Donc, je donne une interprétation particulière, peut-être, mais n'oubliez pas, les marchands auront leur temps et ce sera fini. Judas n'a-t-il pas été un marchandeur? N'a-t-il pas vendu Jésus? Les prêtres n'ont-ils pas marchandé l'arrestation de Jésus? dans Matthieu 26, versets 6 à 13, et Matthieu 27, versets 3 à 10. Mais la vraie maison de l'Éternel sera réservée à tous ceux qui aiment Dieu. Ésaïe 56. Ésaïe 56, versets 7 et 8. Ésaïe 56, versets 7 et 8. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, ce n'est pas une raison pour devenir adventiste. Hein? C'est un sabbat qui veut dire un repos éternel en Christ. Hein? Il faut lire Hébreu dans les premiers chapitres pour savoir ce que c'est que le vrai sabbat. Ce n'est pas un temps de rite juif transmis à des chrétiens. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Ésaïe, chapitre 66. Ésaïe 66, verset 18. Voici, l'Éternel... Je commence au verset 15. 66, verset 15. L'Éternel arrive dans un feu, ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, ses menaces en flammes de feu. Pour les méchants, évidemment. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. À la fin des tribulations. Armageddon. C'est la fin du chapitre 39 d'Ézéchiel. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent la chair de porc, des choses abominables, des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux qui pratiquent quelque chose par effronterie, parce que ça se passe. Moi, je rencontre des gens qui font du satanisme. De plus en plus dans mon ministère, c'est un fardeau très lourd. Il y a plein de gens qui sont engagés dans le satanisme, même très jeunes, à 14-15 ans maintenant. Et ils font des choses provocantes envers Dieu. C'est assez renversant. Dans bien des domaines, hein, pas seulement sexuels, mais dans des choses pareilles. Il y a du commerce de chair humaine maintenant. Vous pouvez trouver sur Internet, du corps humain, d'organes humains. Donc voilà, tout est possible pour s'affronter à Dieu, être arrogant et faire le contraire. C'est ça que je veux dire. Et tous ceux-là vont périr. Verset 18, « Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. » Alors, vous avez bien sûr, le verset 20, « Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, en offrant à l'Éternel sur des chevaux, des chars, des litières, sur des mulets, des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. » Vous avez des promesses formidables dans beaucoup de textes, même à la fin de Zacharie. Donc, les marchands, c'est fini. Un autre temps arrive. C'était la sixième parabole. Pour la septième parabole, parce qu'il faut terminer, je termine aujourd'hui avec les paraboles. Nous allons dans la parabole, dans Matthieu 13, la dernière. Avec le filet qui est jeté sur la mer. Matthieu 13, verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand le filet est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, répondirent-ils. Alors, je voudrais bien vous inviter à lire certains textes. Nous allons dans Luc, chapitre 21, verset 35. J'en ai bientôt fini. Luc, verset 21, chapitre 21, verset 35. Car Jésus lui-même a parlé encore du filet. Jésus, dans le chapitre 21, annonce plein de signes avant la venue, son retour à Jérusalem. Et il y a une prophétie qui correspond à celle de Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 52, celle du filet. Et voilà, il s'agit de ceci. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Ça nous reporte au guindail, au mariage, etc., à la civilisation consumériste qui est décrite dans Luc au chapitre 17 et 18. Ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra ce jour-là comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Donc, le filet, c'est qui ? Mais c'est Jésus-Christ. C'est lui, le juge des vivants et des morts. Personne d'autre, les amis. Il est comparable à ce filet que nous voyons dans Jean chapitre 21 et dans la barque quand les apôtres, les sept disciples, tirent le filet et ils remplissent de poissons. Cela, c'est les prémices de ceux qui sont sauvés. C'est l'image de ceux qui sont sauvés. Ceux qui passent par l'enseignement des apôtres, par le collège apostolique, par la fidélité à l'enseignement des apôtres. Luc 21. Mais ici, nous avons un filet sur toutes les nations, avec toutes sortes de créatures dans les filets. Et donc, pas seulement 153 gros poissons agréables à Dieu. Mais ici, nous voyons, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous avons une vocation, les amis. C'est d'être debout en Christ. Debout, c'est pas couché, endormi. Debout, c'est la position pour écouter, pour démarrer, pour reculer, pour bouger. C'est la position qui nous permet d'agir et de réfléchir. Debout devant le Fils de Dieu, il est clair que dans Daniel, au chapitre 10, verset 11, nous voyons le Fils de l'homme sur les nuées et qui dit à Daniel, « Mets-toi debout devant moi et ne crains point. » De la même façon, Jésus fera ça avec nous quand il reviendra sur les nuées. Debout, les amis, debout pour le jour du Seigneur. Et pas couché dans le péché, pas endormi dans la paresse spirituelle, dans une fausse foi non engagée pour Dieu. Donc veillez donc, analysez-vous vous-même, examinez-vous et faites votre autocritique, votre libre examen, revenez vers moi. Sanctifiez-vous par ma parole et priez en tout temps, jour et nuit. Moins de temps à la télévision, moins de temps sur Internet, sur le téléphone, moins de temps à promener le petit chien, beaucoup plus de temps en Christ, avec lui, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant parmi nous. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Il nous faut de la force pour échapper à ce monde qui nous avachit, qui nous entraîne dans la faiblesse et dans la trahison. Il nous faut de la force. D'où chercher cette force, les amis? Où est cette force? Romains, chapitre 1. Il y a un beau chant, la force est en Christ. Si vous ne le connaissez pas, je n'ai pas quelqu'un pour le chanter à côté de moi. La force est en Christ. Mais Romains, chapitre 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile. Pourtant, c'était la période des persécutions. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, donc du non-juif, tous les non-juifs. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, donc le pardon des péchés par Dieu, par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vit par la foi. Ma foi, c'est ma force. Je suis gardé. Et la puissance qui vient à moi, c'est par l'évangile. L'évangile, c'est une puissance de Dieu. Romains, chapitre 1, versets 16 à 17. Mes amis, si vous ne fréquentez pas régulièrement la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être un chrétien qui est fort, un chrétien solide. Pouet, pouet. La bataille est perdue d'avance. Il faut régulièrement aller dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas boire du Red Bull, manger des épinards. L'évangile, c'est mieux pour l'âme. Y a-t-il un autre verset qui pourrait nous éclairer? 2 Corinthiens 13. Et j'en termine pour aujourd'hui. 2 Corinthiens, chapitre 13. C'est un verset qui a beaucoup marqué ma vie vers l'âge de 39 ans, 40 ans. Parce que j'avais aimé le Seigneur, j'avais lu la Bible, j'avais donné ma vie au Seigneur. Et puis, ça glisse. Dans toutes les occupations de la vie, dans toutes les séductions des livres, des lectures que j'ai eues, dans les valeurs socialistes, dans les valeurs humanistes, dans les valeurs écologiques. Ah, j'ai tout. J'ai pris goût à tout. Et les amis, je me suis rendu compte, à 39 ans, 40 ans, que je n'avais jamais amené une personne vraiment à Christ. Que si je mourais, il n'y avait personne qui vivait de Christ. Si personne ne vivait de Christ, j'avais raté ma vie. Je n'avais pas transmis la vie. J'étais un être mort qui n'avait pas donné la vie. Ce n'est pas de tout faire des gosses. Ce qui compte pour Dieu, c'est d'avoir engendré la foi chez quelqu'un, donné la vie éternelle, la vie physique. Même les chiens et les chats le font. Les vers de terre, les hippopotames, tout cela c'est bien, bien bas. Et c'est guère durable. Mais donner la vie, comment transmettre la vie? Et je souffrais, depuis l'âge de 16 ans, d'avoir connu l'évangile, jusqu'à 42 ans. J'ai dit au Seigneur, j'ai tout raté, j'ai fait tous les efforts possibles et inimaginables. Je croyais que j'y arriverais. Et puis je suis tombé sur un verset qui m'a éclairé. Je vais vous le lire. 2 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 8. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Tout cela, c'est pour vous dire ce qui est mis, et quand j'ai lu dans Luc, hein, pour ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Eh bien, voilà. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, contre l'évangile. Si nous sommes contre l'évangile, nous sommes impuissants. Nous n'avons pas de puissance. Donc, quand Christ revient, on n'est pas debout. Pouit, c'est foutu. Pour l'éternité. Alors, il est mis ceci, nous n'en avons que pour la vérité. Nous n'avons de puissance que pour la vérité. Donc, si je suis dans la vérité, j'ai la puissance. Donc, par la puissance, je peux amener quelqu'un d'autre à la vie éternelle. Quand j'ai compris ça, ça a fait un chamboulement dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, pour ma vie, le reste de ma vie, à 42 ans. J'ai encore 42 en plus à vivre. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? nous n'en avons que pour la vérité. La puissance vient d'un évangile dans lequel on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Donc, comme j'avais été catholique, comme j'avais mélangé beaucoup de valeurs humanistes à ma foi chrétienne, pourtant j'aimais la Bible, des valeurs socialistes, écologiques, etc. J'avais fait un mélange et j'étais sympathique pour un tas de gens, je rassemblais beaucoup de gens dans tous les, beaucoup de trucs, beaucoup de réunions. Il m'a fallu renoncer à tout ça, à ce méli-mélo, et me consacrer uniquement par le Dieu. Et des personnes m'ont dit, mais Jean, tu vas perdre tous tes amis. Tant pis si je perds mes amis. Si j'ai trouvé Christ, et j'ai trouvé le vrai chemin, le petit chemin. Mais Jean, tu as pris l'entonnoir dans le mauvais sens. D'habitude, on prend l'entonnoir par le bout large, et puis on va vers le petit. Mais toi, tu as pris le petit. J'ai dit, j'ai pris le petit chemin, la petite porte. Je sais très bien, et j'ai perdu énormément d'amis. C'est par la suite, mes amis, chers amis, que j'ai retrouvé de vrais frères et vraies sœurs qui sont attachés à la parole de Dieu et qui ne veulent rien ajouter, rien retrancher. Et nous sommes de ceux qui ont la force d'échapper à toutes les forces, les fausses valeurs de ce monde. Nous sommes de ceux qui ont la force d'être debout pour Christ quand il reviendra. Serez-vous debout? Acceptez-vous cette force d'une parole pure, sans compromis? Rien ajouter, rien retrancher. Faites-vous le choix d'un évangile qui est honnête. Ah, on va vous targuer de fondamentaliste, hein? Peut-être de fanatique. Ça m'est arrivé. Ça me faisait mal. Mais est-ce qu'on n'a pas dit ça à Jésus aussi, aux apôtres? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde d'être courageux. Il n'y a pas de vie chrétienne sans courage et sans réel engagement. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Nous abordons mercredi l'Apocalypse chapitre 4, la gloire du ciel. J'y tiens pour vous et pour moi. Amen.